Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Audrey Galil.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième jour de notre série consacrée à l'économie de l'alimentation. Hier, nous nous sommes penchés sur les nouveaux défis de la grande distribution qui tente non sans peine de réinventer son modèle. Aujourd'hui, c'est l'avenir de l'alimentation qui va nous occuper. Comment nourrir les 10 milliards d'êtres humains qui devraient peupler notre planète en 2050 sans dégrader davantage l'environnement ? Voilà l'équation délicate et l'immense défi qui nous attendent dans les décennies qui viennent. Alors que plus de 2 milliards d'êtres humains souffrent de malnutrition et que 800 millions de personnes se couchent encore le ventre vide, quel régime alimentaire adopter et quels modèles agricoles inventer pour nourrir demain la population mondiale? Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Pour parler de l'alimentation de demain, nous recevons autour de la table Bruno Parmentier, ancien directeur de l'École supérieure d'agriculture d'Angers et auteur de cet ouvrage « Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde » publié à La Découverte en 2014. À 14h50, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Bruno Parmentier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors commençons peut-être par un état des lieux de la faim dans le monde. Selon un rapport de l'ONU qui a été publié en septembre, le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde continue d'augmenter à 821 millions de personnes. Et c'est une hausse qui intervient pour la troisième année consécutive. C'est bien cela ?
Oui, mais le problème c'est pas de s'agiter pour savoir d'une année sur l'autre. Le problème qu'il faut regarder, c'est que quel que soit le nombre d'habitants sur la planète, il y a toujours à peu près 800 millions de gens qui ont faim. Les gens qui ont faim, c'est-à-dire des gens qui ne mangent pas assez, qui se couchent, comme vous l'avez dit, le soir, avec le mal au ventre, en disant « comment je vais faire pour manger demain ?» En 1900, sur cette planète, on est 1,8 milliard, et il y a 800 millions de gens qui ont faim. Mmh. En 1950, on est 2,8 milliards. Il y a 800 millions de gens qui ont faim. En l'an 2000, on est 5,3 milliards. Il y a 800 millions de gens qui ont faim. À ce moment-là, on dit, on va faire les objectifs du millénaire. Toutes les nations se réunissent en disant, au 21e siècle, quand même, on va être plus classe. Et disent, on va diviser par deux. Le but, c'est d'arriver en 2015 à 400 millions de gens qui ont faim. Eh ben, on est toujours à 800 millions. On n'arrive pas.
Alors, et pour vous, le fait que ça ait recommencé à augmenter, Bruno Parmentier, ce n'est pas forcément significatif.
Oui, parce que ça oscille entre 750 et 850. Même en 2007, 2008, 2009, quand il y a eu les émeutes de la faim, on a même franchi le milliard. Enfin, on n'arrive pas à retirer cette espèce de fond de base qui a à peu près 800 millions de gens qui se couchent tous les jours avec la faim, plus 1 milliard de gens qui se couchent avec le ventre plein, mais eux, ils ne mangent qu'une seule chose, tous les jours la même chose, par exemple que du riz ou que du manioc, donc leur santé est gravement détériorée parce qu'ils manquent de vitamines et de protéines.
Et ce qui explique que c'est 800 millions, on n'arrive pas à diminuer ce chiffre de 800 millions de personnes qui ont faim, c'est lié au fait qu'il y a des endroits de la planète où la faim recule et d'autres endroits où au contraire elle augmente, Bruno Parmentier.
Voilà, alors, la géographie de la faim change. Il faut se rendre compte que on a eu faim, historiquement, dans tous les endroits où il y avait beaucoup de gens et peu de terre. Est-ce que tout le monde peut comprendre, même s'il n'est pas spécialiste, quand il y a peu de gens sur beaucoup de terre, c'est relativement facile de se nourrir.
C'est pour ça qu'en Europe, il y a eu beaucoup de famine.
Les zones où il y avait beaucoup de gens historiquement et peu de terre, il y en a trois. La Chine, l'Inde, l'Europe. Eh ben, ça marchait. Famine en Chine, famine en Inde, famine en Europe. Il faut se rendre compte que si on a colonisé au 18e et 19e siècle un peu partout, on avait faim, on exportait nos pauvres. On leur donnait un billet à l'essence pour Pétauchnok en disant « trouve-toi avec un fusil, trouve-toi une terre, fais-toi à manger, puis si t'as du rab, on le rachètera. » Bon, on a récité en Europe pendant 2000 ans cette antienne « Donnez aujourd'hui notre pain quotidien ». Mais il faut se rendre compte que si on le disait jour après jour, c'est ça qu'il n'y avait pas. Enfin, par exemple, le 14 juillet 1789, c'est quoi qu'il n'y avait pas place de la Bastille? C'est du pain, etc. Il faut se rendre compte que jusqu'en 1948, il y a eu des tickets de rationnement, 3 ans après la Deuxième Guerre mondiale. En 1948, quand on voulait acheter du pain dans ce pays, il fallait avoir des francs, on n'avait pas inventé l'euro, mais il fallait avoir le petit ticket qui vous donnait la permission de rentrer dans la boulangerie. Bon, ça plaisait moyen. Mmh. On a décidé de dire, on y va, et maintenant, plus personne n'a faim en Europe. C'est quand même extraordinaire.
Bon, alors cette ensuite, géographie en Asie, de la faim a changé. Ce serait maintenant, Bruno Parmentier, le continent africain et la péninsule indo-pakistanaise qui seraient concernés par la problématique
Chine,
de la
exemple.
Faim.
La Chine, quand j'étais jeune, c'était le paradis de la faim. D'ailleurs, moi, mes parents, qui voulaient bien m'élever, disaient « Non, mais finit-on pas avec tous ces Chinois qui ont faim ?» Bon, ils étaient 700 millions à ce moment-là, dans les années 60. Et quand Mao Tse-tung avait une idée de travers, c'était 10, 20 millions de gens qui mouraient de faim, on mourait de faim. Aujourd'hui, la population est 2 fois plus importante en Chine. Ils sont 1,3 milliard. Et on n'a jamais aussi bien mangé. Parce que dans le même temps qu'ils ont doublé la population, enfin ils ont seulement doublé, maintenant ils continuent pas à augmenter, ils ont multiplié par 3,8 leur production de riz, ils ont multiplié par 9 leur production de blé, ils ont multiplié par 14 leur production de maïs, par 9 leur, par 13 leur production de légumes. Donc c'est quand même intéressant et ça donne des espoirs. On mange beaucoup, beaucoup mieux dans une Chine d'1,3 milliard d'habitants que dans une Chine de 700 millions.
Mmh. Alors, en Tout Inde, dépend des investissements. Voilà, en Inde, c'est plus compliqué.
En Inde, d'abord, ils n'arrivent pas à réguler la population. Donc, ils sont 1,2 milliard, 1,3 milliard. Et eux, contrairement aux Chinois, ils continuent. Donc, ça va finir avec des chiffres astronomiques qui seront 1,7 milliard. Et la réalité, c'est qu'il y a toujours à peu près 280 millions de gens qui ont faim. Ils n'arrivent pas à réduire ce chiffre. Et puis alors, il y a des endroits où la faim augmente. Et en particulier, l'Afrique subsaharienne. Alors, d'un côté, il y a de plus en plus de riches et de classes moyennes en Afrique. Mais la réalité, c'est que dans l'Afrique subsaharienne, chaque année, il y a plus de gens qui ont faim. Et finalement, du point de vue géopolitique, on se dit qu'il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Mais c'est plus facile à gérer si on les met tous ensemble. Entre guillemets, je plaisante évidemment. C'est-à-dire, la faim a quasiment disparu de l'Europe, elle est en train de disparaître de l'Est de l'Asie, elle est en train de disparaître de l'Amérique latine. Alors même s'il y a des retours en arrière, bon, en Colombie ça va mieux, au Venezuela ça va moins bien, enfin globalement elle est en train de disparaître. Mmh. Et la faim au XXIe siècle se concentre dans 2 et seulement 2 zones géopolitiques du monde, la péninsule indo-pakistanaise et l'Afrique noire.
Alors il y a cette question de la sous-alimentation, Bruno Parmentier, et puis celle de la malnutrition qui toucherait 1 personne sur 3 dans le monde, selon le rapport sur la nutrition mondiale 2017. 1 personne sur 3, c'est absolument considérable.
C'est-à-dire, malheureusement, on mange très mal. Alors il y a les deux extrêmes. Il y a les gens qui ne mangent qu'une seule chose, comme je disais. Donc forcément, on ne peut pas tout trouver. Et ça, ils sont plutôt dans les pays pauvres. Et puis, dès qu'on devient classe moyenne, on mange très mal, mais à l'inverse. Il y a une explosion absolument considérable de l'obésité dans le monde, qui est une autre pathologie de la faim. Donc on meurt d'obésité comme on mourait de faim avant. Et d'ailleurs souvent, ça va très vite. Les pays où on avait faim deviennent des pays obèses. Bon, le Brésil, par exemple, c'est un pays où on avait faim. Maintenant, c'est un pays où l'obésité devient un problème absolument gigantesque.
Avec une surconsommation notamment de viande rouge, de volaille, de produits industriels transformés.
Et puis, de sucre et de graisse. Mmh. Voilà, quand on mange énormément de sucre et de graisse, d'aliments trop riches, évidemment, ça va mal. Et puis, alors, dans nos pays, à nous, en France, bon, on a inventé la malbouffe, mais enfin, faut pas exagérer. On vient du monde entier voir ce que c'est que bien manger en France. On est encore quasiment les seuls qui s'asseyons à table pour manger tranquillement en famille ou avec des amis. Nous, on ne va pas chercher devant le frigidaire tout seul un truc, etc. Bon. Et donc, on a aussi beaucoup moins d'obèses qu'ailleurs. Malheureusement, ça augmente, mais on en a beaucoup moins. Donc, on peut faire des... Et maintenant, effectivement, on découvre les maladies de l'abondance. Parce que quand on mange trop, une nourriture trop riche, trop souvent, eh ben, le cancer, l'artériosclérose, le diabète, etc. arrivent. Donc finalement, on meurt moins de faim, on meurt plus de cancer, d'artériosclérose.
Il y a effectivement la question de se nourrir suffisamment et de se nourrir sainement, Bruno Parmentier. Et alors, ce bilan que vous venez de dresser est déjà très inquiétant, sauf que les perspectives le sont plus encore, puisque les démographes annoncent une population mondiale en hausse de 2,5 milliards d'ici à 2050. Et c'est notamment la population africaine qui va le plus augmenter. Elle va doubler pour atteindre précisément 2,5 milliards en tout en 2050.
Alors d'abord, il faut voir, je ne suis pas démographe, mais il faut voir que les démographes sont très sûrs d'eux pour 2050, ce qui n'est pas très rassurant. Parce qu'ils vous expliquent une chose que moi, je n'avais jamais réalisée avant. Toutes les filles qui vont faire des enfants pour 2050 sont déjà nées. Donc cet inconnu-là, on ne l'a pas, on peut les compter. Donc finalement, il reste deux inconnus, l'âge du premier enfant et combien d'enfants elles vont faire. Et là, c'est des tendances lourdes qui font que ça baisse. Donc ça baisse un peu plus vite, un peu moins vite. Mais effectivement, ils sont absolument sûrs qu'il y aura 2,5 milliards d'Africains en 2050. C'est-à-dire qu'il y aura à peu près autant d'Africains en Afrique que de Chinois plus d'Indiens aujourd'hui. Et donc, si la population africaine double, il faut quand même augmenter, au moins doubler, la production agricole. Et en fait, il faut la tripler. Parce que aujourd'hui, où les Africains ne sont pas encore très nombreux, où on n'a rien vu, c'est déjà 40% des gens qui ne mangent pas à leur faim en Afrique. Et donc, il faudrait, pour que tout le monde mange essentiellement végétarien, hein. Je dis pas zébu frites, hein.
Parce essentiellement végétarien en 2050. De viande,
il faudrait tripler la production agricole en Afrique. Or, justement, l'Afrique, elle a passé son tour dans la révolution verte du XXe siècle. Et malheureusement, il y a aucun, je dis bien aucun pays africain qui soit bon en agriculture. Il y a plein de pays asiatiques qui sont devenus bons en agriculture. Il y a plein de pays d'Amérique latine qui sont devenus bons en agriculture. Il y a aucun pays africain qui soit bon.
Et en même temps, c'est les pays africains qui sont le plus touchés par le réchauffement climatique,
oui,
Bruno
Parmentier. Mais aussi l'Asie. Hein. Mais, par exemple, on produit moins de nourriture en Algérie que le jour de la décolonisation. Moins de nourriture à Madagascar que le jour de la décolonisation. Depuis la décolonisation de l'Algérie et de Madagascar, nous, en France, on a multiplié par 3 notre production agricole. Cherchez l'erreur. Et donc, d'un côté, c'est toujours la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. D'un côté, on peut dire, les Africains, c'est foutu, ils vont crever de faim, excusez l'inélégance du terme. Et d'un autre côté, on dit, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas augmenter la productivité en Afrique comme on l'a augmenté ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'à Madagascar...
Heureusement, il y a des solutions.
Il n'y a pas de raison qu'à Madagascar, on ne fasse que 2 tonnes de riz à l'hectare, alors qu'en Égypte, qui est aussi l'Afrique, on en fait 8 tonnes. Donc ça devrait être possible de passer de 2 tonnes à 5 tonnes de riz à l'hectare quand même.
Alors on va voir toutes les solutions qui s'offrent effectivement, Bruno Parmentier, on va voir tout ça dans un instant. Mais d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette difficulté à nourrir l'humanité, elle est aussi liée aux dégradations de l'environnement. L'impact de l'alimentation sur l'environnement est déjà considérable. L'élevage en particulier est responsable de 18% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et ce qui nuit gravement à l'environnement. C'est aussi le transport par avion des aliments, notamment des fruits et légumes qui sont consommés hors saison dans les pays occidentaux. L'alimentation pèse aujourd'hui gravement sur l'environnement ?
Oui, bien sûr. Alors, l'alimentation, l'agriculture, c'est un truc typique du développement durable. Dans le mot développement durable, il y a le mot développement, mais il y a le mot durable. Or, il faut se nourrir aujourd'hui sur nos champs, sans empêcher nos fils, nos petits-fils et nos arrière-petits-fils de pouvoir se nourrir. Donc, si, en se nourrissant aujourd'hui, on baisse la fertilité de nos champs, ou on balance la terre dans la mer parce que c'était en pente tropicale, on a labouré et la terre est partie, il n'y a plus que des cailloux, ou on a pollué gravement, etc., ben, ça va être beaucoup plus difficile de se nourrir. Et on n'a pas de planète de rechange, on n'a pas de champ de rechange non plus. Parce que la première idée qui vient, c'est de dire, on va augmenter la taille de la ferme monde, on va cultiver plus de champs. Bon, c'est ce qu'on fait d'un côté, hein. On déforeste comme des malades pour augmenter la taille de la ferme monde. On déforeste à peu près 18 millions d'hectares par an de forêt tropicale, à peu près l'équivalent de la superficie agricole de la France, mine de rien. Bon, mais il faut se rendre compte que, malgré tout, on ne cultive jamais plus de champs. on cultive autant de champs qu'il y a 30, 40 ou 50 ans.
Parce que
d'un côté, on met des champs en culture, et de l'autre côté, notre capacité à détruire les champs pour les transformer en parking de supermarché, en aéroport, en résidence secondaire, en route, en autoroute, etc., est énorme. On construit malheureusement toutes les villes sur les meilleurs champs. Hein, parce que, regardez Paris par exemple, c'est une belle ville. Eh ben, on l'a mis au plein milieu des meilleures terres de France.
Mais alors ça, c'est pour l'Europe, parce que si on va du côté du continent africain, ouais. Bruno Parmentier, il y a énormément de terres arables qui ne sont pas cultivées, justement, énormément de réserves, alors, notamment en République démocratique du Congo.
Alors, il y a énormément de réserves. Alors, maintenant, le problème, c'est que pas d'État, assiette vide. La réalité, c'est que l'agriculture suppose une organisation sociale très sophistiquée. Et d'ailleurs, une bonne partie des grandes civilisations se sont d'abord construits autour de ça. Comment gérer la propriété de la terre, comment gérer l'eau, comment gérer l'irrigation, comment gérer les surplus, etc. Hein, les scribes égyptiens, ils comptaient le blé, parce qu'ils savaient qu'il fallait le stocker, parce qu'il y avait des années de vaches maigres et des années de vaches grasses, parce que la crue du Nil, elle était relativement improbable. Mais pareil, en Chine, tous ces lettrés en Chine, ils comptaient le riz. Parce que c'était très important de stocker le riz, etc. Il faut une organisation sociale pour pouvoir produire.
Et c'est pas ce qu'on constate en RDC où il y a de graves problèmes politiques. Quand
il n'y a pas d'organisation sociale, quand il n'y a pas d'État, ou alors, qui est le cas de la République démocratique du Congo, quand il y a un État faible et des richesses naturelles fortes, eh ben c'est la guerre civile.
En particulier dans l'est du Congo.
Malheureusement, la République démocratique du Congo, qui est probablement la région du monde la plus riche en matières premières industrielles, en diamants, en cuivre, en cobalt, etc., etc., eh ben, elle est en guerre en permanence, et quand on se fait la guerre, on se fait pas manger. Mais, quand on regarde une carte, la République démocratique du Congo est l'équivalent en Afrique de ce qu'est le Brésil en Amérique latine. Les spécialistes disent, on devrait pouvoir nourrir entre 300 et 500 millions de personnes rien qu'avec les champs de la République démocratique du Congo. Mmh. Le seul problème, c'est que malheureusement, nous connaissant, il faudra attendre la fermeture de la dernière mine de diamants, la dernière mine de cuivre en République démocratique du Congo pour qu'elle devienne vraiment ce qu'elle devrait être, un grand pays agricole exportateur.
Alors vous avez évoqué, Bruno Parmentier, la dégradation des sols. Alors il y a l'agriculture industrielle qui est en cause, l'élevage. Et il faut dire aussi que ce sont des activités qui pèsent d'un côté sur les ressources en eau et de l'autre sur les réserves de pétrole, parce que ce sont des activités extrêmement énergivores. Le labour en particulier est une activité très énergivore, Bruno Parmentier.
Alors, c'est vrai que c'est un peu curieux parce que l'art de l'agriculture, c'est de transformer un truc qui est gratuit, le rayonnement solaire, en matériaux énergétiques. Donc au démarrage, on consomme très peu d'énergie. On expose nos champs au rayonnement solaire. Le problème, c'est que pour augmenter cette productivité, et on l'a augmenté considérablement, je veux dire, quand on regarde, là on est au printemps, quand on regarde dans le bassin parisien ou en Champagne, les champs de blé, c'est impressionnant de densité, etc. On est passé de 2 tonnes de blé à l'hectare à 8 tonnes. De 2 tonnes de maïs à l'hectare à 10 tonnes.
Mais ça exigeait des machines.
De 3 ou 4 tonnes de pommes de terre à 40 tonnes de pommes de terre à l'hectare.
Il y a eu besoin de machines et de techniques très énergivores.
Pour ça, on a rajouté énormément de ressources non renouvelables pour pouvoir se faire à manger. Ce qu'on sait faire, et le résultat de la grande révolution verte des années 50-60, c'est je sais faire beaucoup avec beaucoup, et pas toujours bien. Et donc finalement, vu comme ça, c'est assez simple de produire beaucoup et pas forcément mieux avec beaucoup. Or, ben on arrive au bout. Il faut se rendre compte que toutes les ressources sont limitées. Bon, par exemple, on cultive le même nombre de champs, mais on est toujours plus nombreux. Donc, dans les années 60, chacun pouvait disposer en gros d'un demi-hectare de terre arable sur terre. Aujourd'hui, c'est même pas un quart. À terme, ce sera un huitième. C'est-à-dire qu'il faudra manger à 8 sur chaque champ d'un hectare. Donc il faut absolument augmenter la productivité. Et jusque-là, on l'a augmenté avec du pétrole, du gaz, transformé en carburant, en engrais ou en pesticides, et avec beaucoup d'eau, et etc., etc. Et donc, il y a ce vrai problème, c'est qu'il va falloir continuer à augmenter, moins qu'avant. Hein. parce que on a multiplié par 3 à 5 la productivité à l'hectare au cours du XXe siècle. Bon, maintenant, faut encore augmenter de 70%. C'est beaucoup moins que 500%. Mais c'est beaucoup plus difficile, parce que maintenant, il va falloir produire plus et mieux avec moins. Ce qui est plus excitant, mais bien plus difficile, que plus et moins bien avec plus.
Puis il va aussi falloir faire des choix, Bruno Parmentier, entre l'énergie et les produits agricoles, comme on peut l'entendre ici.
Il y a plusieurs filières et manières de produire les agrocarburants. Il y a la filière alcool, c'est-à-dire qu'on va avoir plutôt la betterave, la canne à sucre, dans ce genre de dans cette filière, et éventuellement des plantes comme le maïs, le blé. Où là on n'utilise pas la partie exactement alcool, mais plus la partie glucides. Puis il y a une autre filière qui est la filière huile, comme le colza, le tournesol, qu'on va presser tout simplement, transformer un petit peu plus. Et après il y a d'autres méthodes de transformation, avec des petites subtilités, hein, c'est un peu simplifié, qui vont permettre de remplacer plus les carburants type diesel. Le problème, c'est qu'ils sont en concurrence avec l'agriculture, puisque c'est des choses qu'on pourrait tout à fait consommer. Tous les produits que j'ai cités, ils se consomment. Alors, il y a une deuxième génération qui se développe, qui est basée plus sur la matière lignocellulosique, c'est-à-dire qu'on va utiliser, par exemple, les pailles de blé, ou aussi les déchets forestiers, on va utiliser du bois, ce qui n'est pas utilisé par ailleurs. Par contre, il faudra faire quand même attention, parce que toute cette matière organique, elle est quand même utilisée par la nature pour le cycle végétal. Donc on aura probablement aussi des soucis plus tard, mais on aura probablement des soucis si vraiment on développe cette filière.
Voilà, on entendait l'ingénieur Jean-Luc Vingère dans une interview réalisée par le magazine Futura Science. La question qui se pose, Bruno Parmentier, c'est la suivante. Comment faut-il partager les terres entre production agricole alimentaire et production de biocarburants?
Alors là, la réponse, elle est non. Je veux dire, si la situation, c'est manger ou conduire, il faut choisir, il faut choisir manger.
Mais on sait quelles sont les forces en présence.
Et donc, il faut se rendre compte que il y a très peu de bons champs sur Terre. Il y a 13 milliards d'hectares de terres immergées. Donc d'un côté, on se dit, oh, ça va, enfin, on n'est que 6 ou 7 milliards, c'est bon. Mais en fait, dans les terres immergées, les champs, c'est une toute petite minorité. Il faut retirer partout où c'est trop chaud, le Sahara, etc. Partout où c'est trop froid, la Sibérie, etc. Partout où il pleut pas, partout où il y a des montagnes. Et puis derrière, partout où il y a des villes ou partout on a pollué, etc.
Et la nécessité de préserver la forêt.
On ne cultive que 15% des terres immergées. Alors quand on est en France, on peut pas se rendre compte de ça, parce que où qu'on aille, champ à droite, champ à gauche, on a l'impression que la terre est pleine de champs. Mais tous les gens qui voyagent vont dans des pays où on peut faire 200 km sans voir un seul champ. Donc le champ, c'est une ressource rare. Et à l'intérieur du champ, il y a des fertilités très différentes. Donc, pour pouvoir faire l'essentiel de la nourriture, qui sont le grain, c'est vraiment la base de la base, le blé, le maïs, le riz. Parce que faut se rendre compte que pour une bonne part, la viande, le lait, les œufs, c'est des céréales sur pâte. Parce que les animaux, ils mangent aussi les céréales, du soja et du colza.
Bon. Quel on pourcentage, justement, Bruno Parmentier, de la production céréalière sert à nourrir les animaux?
Alors voilà, on arrive à un tournant, déjà, de l'histoire de l'humanité. C'est qu'actuellement, à peu près la moitié du blé, 80% du maïs, une petite partie du riz, mais au total, quand on cumule toutes les céréales, à peu près la moitié des céréales récoltées dans le monde sont pour les bestiaux et la moitié pour les hommes. Alors on peut continuer. On peut dire, allons à 70%. Comme ça, ce sera simple. Quand on ira chez McDo, il y aura le truc du milieu, il n'y aura plus rien à mettre au-dessus et en dessous. Vous savez, ça, c'est des choix qui n'existaient pas jusqu'à maintenant, qui est de dire, j'ai récolté mes céréales, qu'est-ce que j'en fais? Et là-dessus, on rajoute un troisième truc. Est-ce que je mets des céréales, je les brûle dans mon moteur? Est-ce que je mets du blé dans mon essence ou du colza dans mon diesel? Mais ça, c'est une histoire de fou. Déjà, on n'est absolument pas sûr d'avoir assez de céréales pour nous et nos aliments. S'il faut partager en trois, c'est faux. Donc c'est une erreur absolue.
On voit que la quête d'énergie est en train de passer devant la nécessité première de se nourrir.
Voilà, la première génération des biocarburants, enfin c'est des agrocarburants, ça me fait rire qu'on les appelle bio parce qu'ils n'ont rien de bio en général. C'est-à-dire, le grain brûlé dans son moteur, c'est une histoire de fou. Il n'y a pas assez de grains sur Terre, le grain c'est sacré, c'est pour les animaux à commencer par les hommes. Alors,
après,
quand on voit le maïs, qu'est-ce que c'est que cette coquetterie de dire, dans le maïs pour mon moteur, je prends le grain Bah, tout le reste du maïs, c'est aussi du carbone. Alors, c'est plus difficile à transformer en essence. C'est ce qu'on appelle la deuxième génération des biocarburants. Mais même celle-là, il faut y aller prudemment, parce que le développement durable, ça consiste à remettre de la matière dans les sols pour que les sols ne s'épuisent pas. Mais enfin, on peut discuter. Une partie de la tige de maïs pour nourrir les vaches, une partie pour les voitures, et quand même une bonne partie pour engraisser le sol. Alors ensuite, il faudra arriver à la troisième génération des biocarburants, notamment bah, les algues, etc., etc., où on ouvre. Mais en tous les cas, si on se dit qu'il n'y a que 15% des terres qui sont vraiment cultivables, d'un côté, on dit bah, on peut peut-être faire de l'énergie dans les 85% autres. Tiens, en France, par exemple, où bah, pas en Beauce. La Beauce, c'est sacré, c'est pour faire du pain. Mais pas dans le nord de la France, c'est sacré, c'est pour faire du sucre. Mais pas en Normandie, c'est sacré, c'est pour faire du lait. Mais pas en Bretagne.
Alors dites-nous.
Alors où? Ben dans les Landes. Parce qu'il faut se rendre compte, par exemple,
qu'avec
le réchauffement climatique, la plus grande forêt d'Europe, les Landes, elle est condamnée. Enfin, il faut se rendre compte, on arrive là aux effets du réchauffement climatique. Pourquoi les Landes s'appellent les Landes? Ça s'appelle pas le bosquet. Mais dans le temps, il n'y avait pas d'arbres. Il y avait des taillis, etc. Les bergers, comme il y avait plein de mares, se mettaient sur les échasses, mais il y avait plein de moustiques, voire les moutons, etc. C'est pas commode. Ils ont demandé à l'INRA, tu peux pas nous inventer un autre truc? Et on a inventé le pin maritime. Et on a fait la plus grande forêt d'Europe. Mais quand on regarde objectivement, le pin maritime, c'est un truc qui est génial. Ça pousse sur le sable parce que ça fait ses racines horizontales.
Alors, expliquez-nous en quoi ça consiste.
Mais c'est très sensible au vent, le pin maritime. En 1999, il y a une tempête avec le réchauffement climatique. Nous, on n'a pas de cyclone, mais on commence à avoir des tempêtes. 25% des arbres sont tombés. On a dit, allez, solidarité nationale, on les aide à replanter. 10 ans après, en 2009, il y a eu une deuxième tempête et cette fois-ci, 40% des arbres sont tombés. Alors, il faut se rendre compte qu'il faut 40 ans pour récolter un pin maritime. Mais il est très sensible au vent. Alors, bah, les Landes, c'est au bord de la mer. Les vents dominants viennent de l'ouest. Avec le réchauffement climatique, il y aura des tempêtes. Et donc, si on plante actuellement des arbres dans les Landes, on n'est absolument pas sûr de les récolter dans 40 ans, parce que c'est un pari sur l'avenir qu'il n'y aura pas. Mais on peut regarder ça autrement, en disant la menuiserie, c'est probablement fini dans les Landes, mais on peut peut-être relire les fables de La Fontaine. Il faut mettre des trucs qui plient, mais ne rompent pas. Donc peut-être que les Landes, c'est le bon endroit pour faire des agrocarburants de deuxième génération. Des taillis à croissance rapide qu'on transformera en réserve de carbone.
Si on vous comprend bien, Bruno Parentier, voilà. C'est vraiment la connaissance de la nature et de la nature dans ce qu'elle a de plus spécifique selon les régions dont on parle. C'est grâce à ces connaissances-là qu'on parviendra peut-être à nourrir cette humanité qui est amenée à grandir. On continue à en parler dans un instant.
Take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and there's nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with your eyes closed. Understanding all you see, it's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real. Get on about strawberry fields forever. No one I
Strawberry Fields Forever, interprété par Ben Harper. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Et nous sommes toujours avec Bruno Parmentier pour parler de l'avenir de l'alimentation. Alors avec une population mondiale qui devrait atteindre les 10 milliards d'individus en 2050, il va falloir trouver les moyens d'augmenter la production agricole. Et alors il y a une étude qui est parue il y a quelques années dans la revue Nature et qui propose une série de solutions, une étude intitulée « Des solutions pour cultiver la planète ». D'abord, ce qu'on peut dire, Bruno Parmentier, c'est qu'il y a des régions où il est encore possible d'améliorer les rendements agricoles, et notamment en jouant sur une optimisation des apports, notamment l'eau et les nutriments, les produits chimiques que l'on fournit.
Oui, la différence de rendement sur la planète, elle est très importante. Au démarrage, on ne fait pas beaucoup de grains. On fait une tonne, deux tonnes de grains à l'hectare. Et puis avec la révolution verte, il y a des régions du monde où on a profité au maximum, et le top niveau mondial, c'est chez nous. C'est-à-dire, il y a que chez nous qui,
en
par
France
exemple,
ou en Europe,
en Europe de l'Ouest, allez, on va dire, voilà. Mmh. Ben, on arrive à faire 8 tonnes de blé sur des cailloux en Champagne. Faut se rendre compte que dans toutes les régions françaises où on faisait de la vigne, c'est que les terres étaient trop mauvaises pour faire du blé, donc on mettait de la vigne parce que la vigne va plus profond, elle se débrouille. Et donc, en Champagne avec des cailloux, on fait 8 tonnes de blé.
Mais la question, c'est à quel prix de maïs pour l'environnement.
Mais on a réussi à faire ça. Mais donc, c'est nous les plus vulnérables. Parce que pour arriver à cette performance incroyable de sortir 8 tonnes de blé, ou si vous voulez, de multiplier par 50, hein, chaque grain de blé qu'on sème, il en produit 50. C'est quand même pas mal comme transformation. Bon, il a fallu rajouter énormément de ressources non renouvelables. Donc, nous sommes très menacés, mais dans le Middle-Ouest américain, ils sortent 4 tonnes de blé à l'hectare. Sur les meilleures terres du monde, en Roumanie et en Ukraine, etc., ils sortent 3 tonnes.
Donc il y a encore des endroits où on peut largement augmenter les rendements.
Et il y a beaucoup d'endroits où on sort que 2 tonnes. Donc on peut augmenter. Le problème, c'est que, est-ce qu'on augmente de la même manière qu'on a fait, c'est-à-dire avec du pétrole, des tracteurs, des insecticides, des herbicides, des fongicides, des engrais, etc., où est-ce qu'on passe enfin au 21e siècle? Parce que cette agriculture moderne, à base d'artificialisation, en fait, maintenant avec le recul, c'est un aveu d'incompétence totale. C'est qu'en fait, on ne connaît rien de la nature. On ne connaît que 10% des êtres vivants. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, tiens, comment ils font pour compter les 90% qu'on ne connaît pas? Et en fait, c'est très simple. On connaît toutes les grosses bêtes. On connaît toutes les girafes et les rhinocéros. C'est les petites bêtes qu'on connaît
on
pas.
On connaît très mal la composition des sols.
Il y a énormément de petites bêtes. Dans un gramme, je dis bien un gramme de terre végétale, il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons.
Et alors,
si on commence à peser toutes ces petites bêtes, on s'aperçoit que la somme des bactéries qu'il y a dans nos champs, c'est 1200 fois le poids de toute l'humanité. On se doute bien que ça sert à quelque chose. Sous un mètre carré de champ, il y a 230 millions, je dis bien millions, d'êtres vivants. Et donc cette agriculture moderne a consisté, quelque part, je caricature un peu, mais à dire, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans la terre, il y a sûrement plein de trucs qui nous embêtent. Donc on va labourer pour redémarrer à zéro, de plus en plus profond, tant pis si les cailloux remontent, etc., si on tasse la terre, et puis on va mettre tous les cides. Hein, des insecticides, des herbicides, des fongicides, etc., etc. Comme ça, au moins, on ne sera pas embêté. Bon. Cette agriculture moderne arrive au bout de ce qu'elle peut faire.
Vous considérez, à Bruno Parmentier, que le labour, c'est une pratique qui est dépassée.
Ouais,
expliquez-nous pourquoi.
C'est une catastrophe. Parce que, déjà, on utilise en France, dans la plupart des champs, le rayonnement solaire que 6 mois par an. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on récolte le blé dans la première dizaine de juillet, au moment où il y a le plus de rayonnement solaire, et ensuite, terminé. C'est-à-dire, la terre est nue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil de juillet, d'août et de septembre, il faut absolument l'utiliser. Il n'y a rien de plus urgent quand on a fait la moisson de blé que de semer immédiatement derrière. Quand je dis rien de plus urgent, dans les 2 heures, pour profiter un peu de l'humidité qui est là. C'est-à-dire, on a inventé la moissonneuse, moissonneuse-batteuse, moissonneuse-batteuse-lieuse. Maintenant, il faut inventer la moissonneuse, batteuse, lieuse, semeuse. C'est-à-dire que sur tous nos champs, il faut faire 2 récoltes par an. Il faut faire une récolte de nourriture et une récolte d'engrais. Il faut couvrir nos champs en permanence avec des plantes qui s'aident à pousser les unes les autres et qui fixent le carbone et l'azote et qui fabriquent de la matière végétale. Alors c'est très compliqué, parce que un des avantages du labour, c'est que on était tranquille pour un an avec les mauvaises herbes. Mais seulement tranquille pour un an. Parce qu'il faut se rendre compte que les mauvaises herbes, enfin on appelle ça les adventices, parce que maintenant on s'aperçoit qui sommes-nous pour dire ce qui est bon et mauvais. Bon, les adventices, les plantes qu'on n'a pas envie.
Ne soyons pas
elles
discriminants.
Elles sont extrêmement coriaces. Ça fait 3000 ans que les paysans leur ont déclaré la guerre. On les brûle, on les enfouit, on les empoisonne, on les arrache, etc. Elles sont toujours là. Ben, ça veut dire qu'elles sont très coriaces. Et parmi la coriacité, on va dire, excusez ce néologisme, la coriacité des mauvaises herbes, il y a le fait qu'elles peuvent durer 3 à 5 ans enfermées sous le sol. Donc l'année d'après, quand on laboure à nouveau, ben, bienvenue les graines de mauvaises herbes de l'année dernière.
Trop
c'est
temporaire.
Extrêmement primitif.
Selon vous.
Et donc, les herbicides, alors l'herbicide le plus connu, le glyphosate, il n'a pas bonne presse actuellement. Mais c'est quoi son remplaçant? L'herbicide, ça doit se cultiver. Il faut mettre nous-mêmes les plantes qu'on choisit. Il faut mettre des plantes qui ont trois qualités. C'est elles qui poussent en premier. Elles doublent tout le monde. Ensuite, elles ont des feuilles larges. Elles font de l'ombre aux autres. Et ça s'appelle quoi ça? Ben, herbicide. Et ensuite, elles gèlent l'hiver pour devenir de l'engrais. Alors, c'est très compliqué, mais il faut se mettre dans la tête que l'avenir, ça va être de cultiver nos engrais, cultiver nos herbicides et élever nos insecticides. Alors c'est pareil.
Mais c'est une solution qui a de plus en plus bonne presse, Bruno Parmentier.
Ben,
c'est de plus en plus utilisé.
Et elles vont arriver à une vitesse phénoménale parce que c'est seulement aujourd'hui, on est à l'orin de l'agriculture, c'est seulement aujourd'hui que la vraie agriculture va commencer parce qu'on va faire connaissance. Grâce au progrès gigantesque de l'informatique depuis 40 à 50 ans, on va enfin faire connaissance avec l'infiniment petit. Ça va se voir d'une façon considérable en médecine. Parce que, par exemple, pareil, il paraît que j'ai encore 100 milliards de neurones dans mon cerveau. Ben, les médecins n'en connaissent pas. Ça va être éblouissant quand on va faire connaissance. Ben, c'est pareil avec les bébêtes. Et donc, l'avenir de l'agriculture, c'est pas de tout labourer et de tout détruire, c'est d'aider les bébêtes à faire leur travail de bébêtes. Excusez ce mot pas très scientifique.
Alors, on va voir effectivement ce que va produire et ce que va permettre le progrès technologique dans un instant.
On gaspille en France beaucoup, comme dans tous les pays, puisque c'est un phénomène universel sur la planète. Les pays riches gaspillent de manière différente des pays les plus pauvres, mais tout le monde gaspille. Globalement, on a, on va dire, 20, 25 à 30% de ce qui est produit dans le champ qui est perdu entre le champ et l'assiette, en sachant que dans les pays, on va dire, les moins avancés techniquement, le gaspillage est surtout lié au fait qu'il y a des difficultés pour arriver à transporter et stocker les produits. Donc il y a énormément de pertes en amont et peut-être un peu moins de pertes en aval. Alors que ces questions-là, pour nous, dans nos pays, ont été résolues et on va plutôt gaspiller d'une autre manière, plutôt vers les consommateurs et la distribution, mais on continue quand même à gaspiller au niveau de la production d'une autre forme.
Voilà, on entendait Bruno Lost, le directeur général d'Indigo, une société de conseil et d'ingénierie en développement durable. Selon la FAO, entre 30 et 60% de la nourriture produite par l'agriculture finit jetée, décomposée, mangée par les parasites ou perdue lors du transport ou du stockage. Il y a encore d'immenses progrès à faire, Bruno Parmentier, oui, sur le gaspillage alimentaire.
Alors, c'est vrai qu'il faut prendre conscience que le tiers de la récolte est jeté. C'est à peu près 1300 milliards de tonnes de nourriture jetée. Alors, essayons de comprendre ce que ça veut dire pour moi. Il faut se rendre compte que nous introduisons une tonne par an dans notre bouche. Ça paraît beaucoup comme ça, mais 600 kilos de liquide, 400 kilos de solide, à peu près. C'est-à-dire à peu près un kilo par jour. Alors, quand les Nations Unies disent « on jette le tiers », si on jetait le tiers pour pouvoir manger 400 kilos, il a fallu produire 600 et jeter 200. Ne négligeons pas le fait que plus on est riche, plus on jette. Alors d'un côté, on a des silos, des tanks à l'air réfrigéré, énergie nucléaire, on jette moins à la production, mais on jette énormément après. Et donc, moi j'estime qu'on jette, chaque Français jette 240 kilos de nourriture. Alors c'est vrai que ce chiffre paraît fou. Alors on va le diviser en trois. Il y a à peu près le tiers de ce qu'on jette qui ne rentre jamais dans des statistiques, parce qu'il n'arrive jamais dans le circuit productif. Alors, ça commence par le poisson par exemple. Vous avez vu, les pêcheurs, bah, ils balancent des filets, ils remontent tout. Mais avant d'arriver au port, ils trient, ils rejettent à la mer. Ils disent, bah, ça c'est trop gros, ça c'est trop petit, ça c'est hors quota, ça, bah, le prix vient de s'effondrer, ça je sais même pas. Bon,
on
jette 30 à 50% de ce qu'il y a dans les filets, sont gaspillés. C'est énorme. Mais ensuite, sur Terre, c'est pareil. Tenez par exemple, je sème des carottes. La carotte, vaillant petit soldat, fait son trou. Et puis tout d'un coup, elle trouve un caillou. Et ben, elle contourne, elle devient tordue. Est-ce que vous voyez des carottes tordues chez Auchan?
Bien sûr. Alors que justement, non. Auchan de plus en plus, de plus en plus de supermarchés se battent justement pour vendre des légumes moches. On en parlait hier.
Tous les fruits et les légumes moches, grosso modo, on les jette et sortent même pas du champ. Bon, et donc ça fait à peu près 80 kilos. Alors ensuite, il y a à peu près 80 kilos qui sont dans le processus d'industrialisation. Regardez par exemple, on a inventé le pain de mie sans croûte. C'est génial comme invention marketing. Enfin, je voudrais rassurer les spectateurs, les auditeurs, le pain de mie sans croûte n'arrive pas à l'état naïf. Natif, le pain de mie sans croûte, c'est du pain de mie avec croûte qui en a retiré la croûte.
Oui, mais alors, Bruno Parmentier, il faut y voir une opportunité. Est-ce que là, il n'y a pas justement un endroit où on peut résoudre cette question d'alimentation?
Tout ce gâchis dans l'industrialisation, le transport et la commercialisation, 80 kilos. Et puis ensuite, reste 80 kilos, 40 kilos au restaurant, 40 kilos chez nous. Donc, les marges de progrès sont absolument gigantesques. Tiens, je vais vous donner une toute petite idée qui ne coûte rien. Dans tous les collèges, lycées, écoles de France, enfin surtout collèges et lycées, il y a des self-service à la cantine. Mais quelle est cette maladie qui fait qu'on met la panière de pain au début de la chaîne? Mais quand on est au début de la chaîne, on ne sait pas si on va manger des radis ou du melon, donc on prend du pain. Mmh. Ben, si c'est du melon, on ne le mange pas. Il suffit de mettre la panière à la fin pour diminuer de 20% la consommation.
Espérons
etc.
que des directeurs d'école nous écoutent. Mais ce qu'on entend bien, Bruno Parmentier, c'est que beaucoup de solutions apparaissent, et notamment sur cette question du gaspillage, et aussi beaucoup de solutions qui seront possibles grâce aux nouvelles technologies.
Alors attendez, je voudrais juste dire.
Allez-y.
On jette le tiers de la nourriture. Moi, ce que je disais à mes étudiants, c'est zéro gâchis, c'est impossible. Mais on peut peut-être se dire qu'au lieu de jeter un tiers, on jette un quart. Et si on ne jette qu'un quart, ce qui est quand même possible, on récupère 300 à 400 millions de tonnes de nourriture. C'est quand même pas mal pour nourrir l'humanité.
Eh bien, on va partir vers cette solution autant que possible.
Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui sont implantées sur notre ferme 3.0, qui est effectivement une exploitation réelle, avec donc des problématiques qui sont d'ordre agronomique, technologique et robotique aujourd'hui. Et on s'équipe, donc on est équipé en drone, on est équipé en sondes aussi qui sont apposées dans les parcelles directement. Donc c'est une ferme qui fait uniquement de la culture, donc tout ce qui est élevage, on a mis ça de côté pour le moment. On a mis en place pas mal de nouvelles techniques agronomiques, c'est-à-dire qu'on fait de la recherche sans forcément aller chercher du robot, mais aller dans l'innovation, dans tout ce qui va être suivi cultural, c'est-à-dire dans les itinéraires techniques pour faire pousser la culture correctement, avec le moins d'utilisation possible de produits phytopharmaceutiques, etc. À partir du moment où la donnée est intéressante à être utilisée, être corrélée avec d'autres données pour ensuite pouvoir en tirer des conclusions et optimiser les systèmes, que ce soit au niveau des applications de produits, mais aussi au niveau de la gestion du système dans sa globalité.
Jérôme Sipel, ingénieur conseil en agriculture de précision. Le numérique va permettre de réaliser des progrès considérables dans l'agriculture.
C'est même l'an 1 du progrès. On a cru que le numérique, c'était un progrès. Mais le numérique, ça sert à démarrer la vraie révolution qui est celle du vivant. Ça va servir à comprendre le cerveau et à comprendre le sol. Alors, j'ai envie de réagir en disant, avec le remembrement, nos champs ont augmenté considérablement de taille. Avant, un champ, c'était un demi-hectare. Maintenant, c'est 10 ou 20 hectares. Mais on est complètement primitif. On continue à gérer le champ au champ. Et on dit, le champ à soi, faut arroser. Mais faut arroser, mais t'as 20 hectares, où est-ce que t'arroses? Le champ a besoin d'azote ou de phosphore, faut en mettre. Mmh. C'est seulement aujourd'hui qu'on va vraiment faire connaissance et qu'on va gérer le champ au mètre carré, à terme à la plante, et non pas au champ.
Et grâce à quoi? Grâce à des sondes, grâce à des capteurs?
C'est grâce au fait que l'informatique permet une connaissance fine du vivant. On va savoir exactement où en est la plante, quels sont ses besoins, et on va savoir exactement les bactéries, les champignons qui sont en dessous, et comment passer des alliances avec eux. Et donc, jusque-là, c'était une agriculture d'incompétents qui ne comprenaient pas ce qui se passait dans son champ.
Vous n'allez pas vous faire des amis, vous.
Non, mais d'incompétents, enfin. On ne sait pas ce qu'il y a. Le vivant, on ne le connaît pas. L'infiniment petit, on ne le connaît pas. Et il y a énormément d'infiniment petits. Les champignons, les bactéries, etc. C'est ça qui nous fait vivre. Et donc, on va enfin faire connaissance et dire comment je peux t'aider à faire ton travail plutôt que de dire je ne sais pas quoi te faire, donc je retourne tout et je mets plein de produits délétères pour que t'empêcher de m'embêter.
Et l'une des solutions, par exemple, ça pourrait être de mélanger plusieurs espèces dans un même champ, mélanger par exemple légumineuses et céréales. Ça fait partie des options qui apparaissent.
Absolument. C'est les mélanges de plantes à faible intrant, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut mettre ensemble des plantes qui s'aident à pousser. des plantes à racines profondes avec des plantes à racines superficielles, des plantes qui fixent l'azote du sol et qui en donnent aux céréales qui ne savent pas fixer l'azote de l'air qui en ont besoin dans le sol, des plantes qui éloignent les insectes, etc., etc. Donc, cette espèce de monomanie, qui est de dire je vais faire du blé sur du blé sur du blé, ou avec le soja OGM, là c'est encore pire, le soja sur le soja sur le soja. Imaginez l'insecte qui arrive en bord du champ et qui dit « Mais attendez, il y a 20 hectares de blé à bouffer, venez tous les gars !» Donc la monomanie de dire je mets une seule variété d'une seule espèce et puis je rajoute plein de produits chimiques pour que ça marche, ça n'a qu'un temps. C'est extrêmement primitif. Sur chaque champ, il va falloir mettre 10, 15, 20 plantes différentes chaque année.
Alors il va falloir voir comment on peut justement passer d'une agriculture chimique et industrielle à l'agroécologie. Est-ce qu'il faut opérer ce passage? Je vous propose d'écouter Maxime de Rostolan. Il est coordinateur du projet Ferme d'Avenir qui promet justement l'agroécologie.
On sait très bien que le modèle agricole chimique nous mène dans une impasse, nous emmène dans le mur. Il détruit la biodiversité, le climat, la qualité de l'eau, notre santé, de l'emploi. Et ce sont des externalités qui aujourd'hui font partie de l'imaginaire collectif. On a compris qu'en fait, se nourrir, ça voulait dire ça. Eh ben non, en fait, il n'y a pas une fatalité. On peut produire différemment et l'agroécologie le propose. Olivier de Schutter, qui est le rapporteur de la FAO auprès de l'ONU, disait « L'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. » Donc, je pense que passer d'un modèle qui est un petit peu mortifère à un modèle qui, au contraire, va régénérer les écosystèmes, le climat, la santé, la qualité de l'eau, recréer des dynamiques sur les territoires en créant de l'emploi, c'est quelque chose qui est un projet qui est plutôt enthousiasmant et qui est surtout nécessaire.
Il y a urgence aujourd'hui, Bruno Parmentier, à en finir avec une agriculture industrielle qui a largement contribué à épuiser les sols notamment.
Oui, alors en finir tout de suite, c'est le combat, etc. Non, inventer une agriculture moderne. Il faut se rendre compte que les deux systèmes de production de matière végétale qui marchent le mieux sur Terre, ils n'ont jamais vu une charrue ni un engrais. C'est la forêt vierge et la prairie naturelle. En fait, c'est des mélanges de plantes qui s'est à pousser. Donc la nature, naturellement, elle sait comment faire ces mélanges de plantes et ces équilibres naturels. C'est nous qui les avons rompus avec notre monomanie, on va dire, on va faire blé sur blé avec des engrais, des pesticides, etc. Mais encore une fois, c'était un aveu d'incompétence. Seulement maintenant qu'on va comprendre comment ça fonctionne et qu'on va pouvoir faire avec. Et donc l'agroécologie, c'est l'agriculture tout court. C'est l'agriculture chimique qui est un pis-aller en attendant, si j'ose dire. Le problème, c'est que comme elle est très productive, il faut arriver à être aussi productif. Il faut arriver à continuer à faire 8 tonnes de blé, 10 tonnes de maïs à l'hectare, mais avec des méthodes d'association de plantes, etc.
Et alors, est-ce qu'on y arrive aujourd'hui?
Alors, on va y arriver. C'est-à-dire, il faut se rendre compte que depuis 50 ans, on ne cherchait plus dans l'agriculture bio. À la limite, dans les écoles d'agriculture, c'était un gros monde. Et on est sérieux, on va quand même pas parler de la bio. Bon, donc, tous les chercheurs cherchaient en agriculture chimique. Bon, 95% cherchaient en agriculture chimique. Il y avait toujours quelques barbus chevelus dans le Massif central qui cherchaient en bio. Mais enfin, on est forcément beaucoup moins bon en bio. Donc, pour le moment, la productivité à l'hectare de la bio est moins bonne que l'agriculture chimique.
Mais il y a beaucoup de recherches en cours qui devraient permettre d'avancer.
C'est maintenant qu'on va enfin faire les découvertes. Les découvertes de l'agriculture chimique, elles sont derrière nous. Les découvertes de l'agriculture écologique, elles sont devant nous, y compris la chimie. On va passer d'une conception de la chimie qui détruit, en cides, herbicides, etc., à la chimie qui aide. Voilà. Et donc, qui accélère les processus naturels. Il n'y a rien de mieux qu'aider les bactéries à fixer l'azote de l'air. C'est bien mieux que de les détruire pour mettre des choses autrement. Et par exemple, l'arbre, c'est typique. C'est-à-dire, on a payé les agriculteurs pendant des dizaines d'années pour éliminer les haies. Il y a des années où on éliminait 40 000 kilomètres de haies dans l'année. Et maintenant, on s'aperçoit, dans ces zones très intensives, il n'y a plus d'arbres du tout. Voilà, c'est quand même fou. Or, faire et défaire, c'est toujours travailler. Regardez, en ville, on avait supprimé les tramways et les vélos, on les remet. À la campagne, on avait supprimé les haies, on les remet. Parce que finalement, on s'aperçoit que l'arbre, c'est très important. D'abord, ça va chercher ça prend le temps de faire des racines. Donc, ça va chercher les éléments nutritifs à 5, 6, 7 mètres et non pas à 50 centimètres ou 1 mètre. Deuxièmement, ben, ça héberge cette biodiversité, ça héberge notamment les bébêtes qui mangent nos plantes, ça régule l'humidité,
etc. Il faut réparer les erreurs d'hier et inventer les modèles de demain, Bruno Parmentier, mais est-ce que ça ne passera pas aussi cet avenir de l'alimentation par des changements dans nos modes de consommation? Est-ce qu'il ne faut pas aussi manger moins de viande, mais aussi moins de poisson parce que les ressources halieutiques s'épuisent et qu'on a vu l'impact de l'élevage sur l'environnement?
Alors ça, c'est une autre obsession. Je veux dire, on a tous voulu manger comme le patron, hein, c'est-à-dire beefsteak frites. Et puis une fois qu'il y a eu le beefsteak, au lieu d'aller gagner son beefsteak à l'usine, on était mettre du beurre dans les épinards. Et alors, il faut se rendre compte que au cours du XXe siècle, en France, on s'est fixé sur le millésime. Dans les années 30, 30 kilos de viande et 30 kilos de lait. Dans les années 50, 50 kilos. Dans les années 80, 80 kilos. Et au détour du siècle, on s'est fait chacun 100 kilos de viande et 100 kilos de lait. Bon, seuls les naïfs pensaient que ça allait continuer. Quand l'an 2100, on allait manger 200 kilos de viande, puis 300, puis 400.
En l'occurrence, la production diminue, sauf qu'elle augmente dans les pays émergents.
Parce que nous, finalement, on s'aperçoit que c'est trop, c'est mauvais pour la santé, etc., etc. Ben, heureusement, parce que, qu'on va diminuer, il faut même accélérer ça. Il faut repasser de 100 kilos à 50 kilos, et de 100 kilos de lait à 50 kilos. Parce que, il faut se rendre compte que la viande et le lait, c'est du concentré de végétal. Parce que, regardez, le poulet, par exemple. Qu'est-ce qu'il mange le poulet? Il mange exactement comme nous. C'est pas cuisiné pareil, mais c'est les mêmes ingrédients. Il mange du blé, du maïs, du soja, du colza. Sauf que il se chauffe, c'est un animal à sang chaud, puis il fait des plumes, il fait des becs, il fait des os, etc. Donc, il faut 3 à 5 kilos de végétaux pour faire un kilo de poulet. Il faut 4 à 6 kilos de végétaux pour faire un kilo de porc et à peu près 12 pour faire un kilo de vache. Donc, quand l'ouvrier chinois met une aile de poulet dans son bol de riz, ça change totalement, parce qu'il mange toujours du riz, plus tout ce qu'a mangé le poulet qu'il mange. Et les végétariens, ça mange à peu près 200 kilos de céréales par an, et dès qu'on devient carnivore, on passe à 800. Parce qu'on mange tous les végétaux qu'ont mangé les animaux qu'on mange.
Donc il y a peut-être urgence à changer
ce modèle-là. Et donc il y a une urgence absolue de manger beaucoup moins. C'est bon pour notre santé, c'est bon pour la planète. Dans les pays où on en mange trop, parce que je vois pas au nom de quoi on interdira aux Africains la poule au pot le dimanche qu'on pratique depuis plusieurs siècles en France. Eux aussi, ils ont le droit à manger du poulet une fois par semaine.
Qu'est-ce qu'on peut inventer, Bruno Parmentier? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de ces initiatives qui visent à créer de la viande ou du poisson artificiel? En 2015, il y a des ingénieurs de la start-up Wavefood qui ont créé un substitut végétal à la crevette en utilisant la nourriture principale de la crevette, qui est donc une algue. Est-ce que ce sont des solutions qui vous paraissent crédibles?
Alors attendez, le concurrent du beefsteak, c'est le soja, c'est les légumineuses,
c'est la
lentille, etc. Il y a plein de végétaux qui ont des protéines. Cette idée, enfin, c'est génial du point de vue technologique de faire une viande sans animal. Je trouve ça, du point de vue excitation scientifique, c'est génial. Mais les riches qui peuvent se payer des vrais animaux. Déjà, ils veulent pas manger d'OGM, de trucs, de machins. Ça m'étonnerait bien qu'ils en mangent. Et les pauvres, faut pas imaginer qu'on va nourrir les pauvres avec des trucs ultra hyper technologiques. Donc, il faut passer beaucoup plus de protéines animales à protéines végétales, manger moins de protéines animales. Et pour les poissons, par exemple, faut les élever au lieu de les pêcher, puisqu'il y aura plus de poissons dans la mer, mais rien n'empêche de les élever. Bon. Et, c'est normal de partager un peu. Qu'on mange un peu moins de produits animaux dans les pays du Nord où on est gâté par l'obésité et l'artériosclérose pour qu'en Afrique, ils en mangent une fois par semaine.
On arrive au terme de cette émission. Bruno Parmentier, un dernier mot peut-être sur l'avenir de notre alimentation. On disait 10 milliards d'êtres humains en 2050. Vous restez optimiste quant à la possibilité de mettre en place les politiques qui permettront d'arriver à nourrir l'humanité?
Oui, sachant qu'en plus, quand même, je rajoute une cause d'anxiété. C'est dans les pays où on mange mal, où on mange pas assez, que les effets délétères de réchauffement de la planète vont arriver et que ça va devenir très difficile. Donc, c'est vrai que c'est très difficile, mais c'est vrai que je crois qu'on n'imagine pas encore toutes les nouvelles solutions agroécologiques qui vont faire que chez nous, on pourra produire autant, c'est-à-dire beaucoup, avec beaucoup moins, et qu'en Afrique, notamment dans les pays, dans les zones tropicales où les forces de la nature sont très fortes, on pourra tripler la production agricole. Mais il faut mettre ça comme une priorité absolue de l'humanité. Je ne suis pas sûr que ça le soit.
Et Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une pétition qui réclame l'interdiction de la production de fruits et légumes bio sous des serres chauffées hors saison.
Absolument, lancée par la Fédération de l'agriculture biologique et plusieurs associations de protection de l'environnement, dont Greenpeace et le réseau Action Climat, cette pétition dénonce une aberration gustative, agronomique et environnementale en contradiction profonde avec les valeurs portées par la bio. Car oui, la pétition parle bien de la bio qui ne renvoie pas simplement à la production de fruits et légumes sans pesticides, mais bien à une philosophie, un projet de société qui allie une alimentation de qualité, un respect de l'environnement et de la biodiversité et une juste rémunération des agriculteurs. Or, le risque justement de voir l'agriculture estampillée biologique se faire phagocyter par les logiques productivistes et industrielles de l'agriculture dite conventionnelle. Avec une augmentation de la demande de 17% l'année dernière, l'agriculture biologique commence en effet à aiguiser l'appétit des autres producteurs.
Il faut dire que si les serres chauffées représentent encore une très faible part de la production biologique, leur potentiel de croissance, lui, est très fort.
Exactement. Si pour l'instant, les installations de sériculture représentent à peine 0,2% de la production bio en France, leur développement est largement encouragé par les poids lourds de l'agriculture conventionnelle, la FNSEA, le réseau COP de France ou encore l'Assemblée des chambres d'agriculture. Ainsi, comme le rapporte Libération, la construction d'une centaine d'hectares de serres est déjà prévue en Bretagne et dans les pays de la Loire. Des projets en cascade qui ont fait réagir les acteurs de la filière biologique qui voient dans ce type de dispositif un non-sens environnemental incompatible avec le label bio. Ces derniers font ainsi valoir dans la pétition que l'obtention de ce label impose le respect des cycles naturels et une utilisation responsable de l'énergie. Chauffer une serre pour produire des tomates ou des concombres en plein hiver ne peut donc être compatible avec l'agriculture biologique, poursuit la pétition. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui 80% de ces espaces de culture sont chauffés au gaz ou au fioul. Ainsi, selon une étude de l'ADEME, une tomate produite sous serre émet 8 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate produite en saison.
La question devrait être tranchée le 11 juillet prochain lors de la réunion du Comité national de l'agriculture biologique.
Exactement. Prévu dans un premier temps à la fin de l'année dernière, le vote a finalement été reporté sous la pression des acteurs conventionnels, ces derniers s'opposant en effet à l'adoption d'un texte expliquant que le chauffage des serres est possible, mais seulement dans le respect des cycles naturels lorsqu'il utilise des ressources renouvelables produites par l'exploitation. Un texte inacceptable pour les acteurs de l'agriculture non biologique qui estiment que de telles règles imposées aux agriculteurs français les désavantageraient encore face à leurs concurrents et reviendraient à faire une croix sur une production bio française de qualité.
Les auteurs de la pétition dénoncent de leur côté une industrialisation du bio.
Oui, une capture de la filière par l'industrie qui, au-delà des gaz à effet de serre émis, serait contraire à la démarche agronomique défendue par le modèle biologique. Comme l'explique Sophia Majnoni, déléguée générale de la Fédération nationale d'agriculture biologique, les systèmes fondés sur le chauffage doivent, pour être rentables, se spécialiser sur des monocultures à forte valeur ajoutée, comme la tomate ou le concombre, avec à la clé moins de rotation et un appauvrissement de la terre. À l'heure où l'on s'interroge sur les manières de nourrir l'humanité sans détruire la planète, difficile de comprendre que l'on mise encore sur ce type de projet énergivore et mauvais pour les sols. Réponse le 11 juillet prochain.
Avec Peter Van Pearl, Near the End of the World. Merci beaucoup Bruno Parmentier de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Demain, nous nous pencherons sur l'influence des lobbies de l'alimentation. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. I went straight to the labyrinth collapse.